si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Céline Develay-Mazurel, Laure Allary.
Ça y est, le Méditerranée 14 vient de larguer les amarres. Destination Port-Cros.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nouvel épisode de notre série de voyages à travers les parcs nationaux français, avec aujourd'hui Vladimir Cagnolari qui nous emmène donc sur la toute petite île de Port-Cros. Un confetti de nature sauvage, intacte, d'à peine 7 km², situé au large de Hyères, dans le sud de la France. Port-Cros, c'est un écrin de verdure, de criques et de calanques baignant dans les eaux turquoises de la Méditerranée, repère ici de dauphins, de baleines ou de gros mérous. Car depuis 1963, 60 ans tout juste, Port-Cros est devenu parc national, le premier parc marin d'Europe. Un statut qui l'a rendu pour ainsi dire intouchable et qui s'est ensuite étendu dans d'autres mesures aux îles voisines de Port-Cros et du Levant, ainsi qu'à des zones côtières du continent, juste en face. Préservé de la spéculation immobilière et de la très forte empreinte humaine qui existe sur les côtes méditerranéennes, cette île est donc un sanctuaire, sans voiture ni grande route, mais un sanctuaire habité. Durant l'hiver, les port-crosiens, comme on les appelle, peuvent se compter sur une ou peut-être deux mains. Mais ce sont bien ces quelques familles qui s'y maintiennent contre vents et marées qui ont fait l'histoire de l'île et le trésor qu'elle est encore aujourd'hui. Et sur Port-Cros, les gardiens du trésor, ce sont les agents du parc national qui assurent l'entretien des sentiers, la veille scientifique, mais aussi l'information des visiteurs qui viennent randonner ici pour la plupart à la journée. Nicolas Robert est chef de secteur, il a grandi à Port-Cros et il est à la tête de cette petite équipe de 12 agents permanents de l'île. Et dès qu'il le peut, il fait découvrir son île aux visiteurs, Vladimir compris.
Alors là, on est vraiment sur une petite crique où on a d'ailleurs de la posidonie qui arrive en surface, qui effleure l'eau. On a un arbre remarquable où on sent qu'il est vieux, on sent qu'il est marqué par le temps. On a ces rochers de schiste et de quartz qui s'avancent dans l'eau. On a ce maquis qui essaye d'arriver jusqu'à l'eau, mais qui, en même temps, on sent bien qu'il n'en a pas envie parce qu'il craint un peu les embruns et la puissance de la mer. Et puis, si on regarde, on a à la fois le large et puis on voit quand même, on devine la côte et les habitations qui sont sur la Provence, enfin donc sur la côte provençale qu'on a en face de nous.
C'est le continent qu'on voit.
Voilà, là en face de nous, on a le Lavandou, on a Brégançon, voilà. Et puis on a évidemment notre îlot de Bagot qui nous protège finalement, à la fois presque du continent, mais aussi des courants et des vents.
Bagot, c'est un satellite de Port-Cros, et par contre c'est une réserve intégrale, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'y accoster.
C'est ça, on a trois îles autour de Port-Cros qui font partie intégrante du cœur de parc national et qui ont effectivement un statut de réserve intégrale. Donc effectivement, on peut dire que tout y est interdit, en fait. Donc on n'y fait rien. Alors c'est vrai que nous, pour des raisons scientifiques, ça peut nous arriver d'y aller, mais on y va très rarement. On évite en tout cas.
Dites-moi, Nicolas est venu vous chercher sur un catamaran ce matin. Mm-hmm. Vous venez d'où et vous êtes qui ?
Alors, je fais partie de l'association Longitude 181, qui est une association qui a été fondée par François et Véronique Sarano il y a 20 ans, en 2002. On a fêté nos 20 ans l'année dernière. Et c'est une association de sensibilisation et de préservation du monde marin.
Et donc là, vous êtes venu en balade à Port-Cros ?
Alors là, on est plus qu'en balade à Port-Cros, puisqu'on fait des stages de 2 jours. Pendant une journée, on fait de la navigation au large, à la recherche des cétacés, qu'on rencontre ou qu'on ne rencontre pas. Voilà, la rencontre, c'est toujours un cadeau. Et ensuite, on vient une journée à Port-Cros et on va faire d'autres activités, d'autres découvertes. Cette fois-ci, aujourd'hui, c'est une découverte terrestre.
Vous en avez vu des cétacés, cette fois-ci ?
Cette fois-ci, nous avons vu 3 grands dauphins hier. Une belle chasse de bonite.
La bonite, c'est un poisson qui n'est pas très loin du thon, hein, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, c'est la même famille que le thon. Et tout ce beau monde était en train de chasser avec les gabions, enfin les goélands. Et il y avait des anchois et ça sautait de partout, c'était assez prodigieux hier. on s'est retrouvé au milieu d'une belle chasse.
Oui, allez-y.
Voilà. Vous êtes sur la plage la plus confortable du monde.
Je valide. Ah,
c'est une toute petite plage avec beaucoup d'algues sèches qui font un tapis sur le sable. Je ne sais pas combien d'épaisseur il fait, mais en tout cas, ça fait effectivement comme un matelas.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, là, on est assis sur les banquettes de Posidonie. Donc, c'est cette plante si précieuse et protégée qui perd ses feuilles comme toutes les autres plantes et donc se retrouve ramenée par les courants et les vagues. Et du coup, au fil des années et des années, crée cette sorte de banquette qui a à la fois... la capacité du coup à protéger le littoral, hein, c'est vraiment une vraie protection pendant les tempêtes. Du coup, le sable et le substrat restent protégés par ces banquettes de Posidonie. Et puis, ben, c'est vrai que c'est une façon d'aborder les choses en disant que c'est la plus confortable du monde, parce que c'est vrai que souvent on a l'impression, on se dit les plages, c'est forcément du sable fin. Et... À Porquerolles, les plages, c'est pas des cartes postales. Il y a un intérêt écologique, c'est des plages qui vivront longtemps parce qu'on les laisse se protéger toutes seules. Et voilà, d'où les plus confortables du monde.
Porquerolles, c'est un joyau esthétique, c'est une petite merveille perdue, pas si loin de la terre mais qui reste isolée. Et avec un patrimoine historique, littéraire et naturel exceptionnel. Je m'appelle Fabrice Roda, je suis garde-moniteur au parc national de Porquerolles depuis 3 ans.
Ici, on est sur la terrasse du fort de l'Estissac. C'est là où tu habites et on a une vue extraordinaire.
Ah ben c'est une vue qui est exceptionnelle puisque c'est le seul fort qui a une vision quasi à 360 degrés. On voit l'île de Bago. Au-delà, on voit Porquerolles et on voit bien l'alignement des îles qui leur a valu leur nom en grec, les stoccades, ce qui veut dire les alignés.
Et c'est ta vue quotidienne quand tu rentres chez toi ?
Quand je rentre, quand je me lève le matin, oui. C'est une belle vue. C'est un beau point de vue.
Qu'est-ce que tu as découvert à Porquerolles en arrivant ?
Oula, Porquerolles, c'est un livre très épais. Et plus on tourne les pages, plus on s'enfonce dans l'histoire de l'île et on découvre toujours plein de choses. Le premier aspect, c'est la nature. Quand on arrive, c'est une belle nature préservée, avec cet écrin bleu tout autour. C'est déjà un choc esthétique, on va dire. Et puis, il y a les Porquerolliens. C'est une rencontre très, très intéressante parce que quand on ne s'arrête pas à la surface, on se rend compte qu'il y a vraiment des histoires formidables. Très subtil aussi, parce que c'est une île qui a un passé avec des écrivains, etc. Et tout ça est entremêlé avec l'histoire des Porquerolliens. Eux, ils ont une relation charnelle avec leur île. C'est-à-dire que ce que j'entends par charnel, c'est qu'ils ont tous des souvenirs. Et quand ils commencent à raconter tout ça, on se rend compte que l'île, ils la vivent d'une façon qu'on ne pourra jamais aborder, en fait. Surtout quand on prend conscience que c'est sur des générations et des générations. Donc, ils transmettent ça à leurs enfants, un savoir particulier de l'île. Ils peuvent te dire, à telle époque, il y avait un verger, maintenant c'est tout fermé parce que la végétation a poussé. À tel endroit, si tu vas chercher à tel restant, que tu vas trouver des gros serpents sous telle pierre. Enfin, voilà, ils ont une relation charnelle avec l'île et ils ont une connaissance de tout. Bien plus que les scientifiques, quelquefois, qui viennent ici. Et si l'île est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce aux habitants. Je veux dire, le parc n'existerait pas sans les habitants. C'est eux qui ont décidé de ça, initialement. Donc, on arrive avec une administration qui dit, bon, le parc national, ça fait 60 ans, c'est l'année des 60 ans du parc. C'est tout à fait vrai, 60 ans qu'il y a une gestion de l'île, mais cette gestion s'est faite avec les habitants.
William Semuller, je suis l'adjoint spécial de Porquerolles et je suis ravi de vous accueillir dans ce petite mairie, peut-être une des plus petites de France.
Et c'est ça, parce que bon, la pièce fait quoi, une dizaine de mètres carrés?
On peut dire, moi je mettrais 2 par 3, oui, ça fait entre 6 et 7 mètres carrés.
Effectivement, c'est sans doute une des plus petites mairies qui m'a été donnée de voir, avec des clichés. C'est quoi ? C'est vos prédécesseurs qui sont là ?
Exactement, ce sont les adjointes spéciales depuis 1945. Donc vous avez des personnalités locales qui ont été importantes. Vous avez Madame Henry en particulier, qui est arrivée dans l'île en 1919, et dont on doit le parc national, la protection de l'île. Hein, ça a été son combat.
Adjoint spécial, ça veut dire quoi exactement ?
L'adjoint spécial, c'est celui qui fait office de maire en l'absence du maire, parce que comme nous sommes une île, nous sommes loin du centre. Et donc c'est Napoléon III qui a créé cette fraction, il y a 160 ans, et qui permet au maire de hier de pouvoir s'appuyer sur une personnalité, reconnue localement en tout cas, qui lui garantit l'exercice des compétences de la ville et du fonctionnement des services.
Vous avez parlé de Marceline Henry. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui c'était ?
Alors, Marceline Henry est une femme qui débarque à Port-Cros en 1919 avec un ami qui s'appelle Claude Baline et qui est un poète. Cet homme a été gazé et donc il a des problèmes de respiration et elle va elle cherchait justement un air qui lui permette de le maintenir encore en vie. Et en débarquant à Port-Cros, à l'époque 1919, vous imaginez, elle va avoir ce coup de cœur. Et c'est elle, en fait, qui, par sa pugnacité, sa volonté, s'est dit non seulement c'est un endroit magnifique, mais je vais m'y installer et je vais tout faire pour le préserver. Et de 1919 à 1966, elle n'aura de cesse que de construire. Alors elle va faire de très belles rencontres. Elle fera d'abord une belle rencontre avec Madame Desmarais, qui est une cliente de l'hôtellerie provençale, établissement qu'elle tiendra, et qui va lui permettre de racheter l'île quand l'île va être mise en vente. Ensuite, il y aura une forme de dispute ou de rivalité entre ces personnes qui s'éteindra à la mort de Madame Henry. Mais l'essentiel aura été fait. C'est et d'un côté de Madame Desmarais et du côté de Madame Henry, jamais aucune construction ne sera faite sur Port-Cros. Jamais.
C'est un pacte, quoi.
C'est un pacte implicite de gens qui avaient considéré qu'il fallait que l'île reste en l'état. Et à la fin de sa vie, quand elle va... Alors ça, c'est la première intuition qu'elle va avoir dans cette relation. La deuxième, c'est les intellectuels. Port-Cros est une île qui va vivre à travers la littérature, en tout cas cette partie-là, notamment par la rencontre entre Madame Henry et Jean Paulhan. Et Jean Paulhan, et puis Jules Supervielle, puis Marcel Arlan, etc. etc. Pourquoi ? Parce que ces personnalités-là, importantes de la vie littéraire française, vont venir s'installer au fort de la Vigie, vont créer un phalanstère. Ils vont commencer à exercer une influence, finalement, sur le rapport entre la littérature, l'insularité, la nature, etc., etc. Et dans des moments très difficiles, notamment sur la fin de sa vie, où Madame Henry va chercher une issue pour éviter les spéculateurs, les tentations de construction, etc., le lien va se faire avec André Malraux, qui est ministre de la Culture. Et en 63, il y a 60 ans, André Malraux signera ce décret qui fera que Port-Cros va rester préservé parce que ça deviendra éternellement parce que c'est un parc national. Donc un premier parc national marin. Je vous résume tout ça, c'est une très longue histoire, mais le rôle de Madame Henry, de Monsieur Henry, de Claude Baline et de toute une série de personnalités, Madame Desmarais, je l'ai citée, font que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est possible grâce à eux. Il n'y a pas de construction. On n'est pas sur la côte, on n'est pas... Voilà, on est dans un lieu qui a été préservé par la volonté farouche de cette femme. Donc je lui rends hommage et je m'inscris vraiment dans cette continuité, comme la majorité des Port-Crosiens.
Jean-Claude ? Ah, c'est Vladimir !
Venez, on va s'asseoir.
Ah ben, avec plaisir.
C'est mouillé. Mettez-vous là.
Jean-Claude Ferry, c'est bien ça ?
Tout à fait.
On est dans votre cour, qui est une cour pavée. C'est très joli, c'est ouvert, il y a des fleurs aussi. Et puis, à travers les arbres, on devine vraiment la Grande Bleue.
Ah oui, mais je l'ai vu monter, ces arbres. Avant, je voyais la mer. Hein. J'ai vu pousser ce chêne-là. On y jouait avec. C'était la cour de l'école, on avait mis la balançoire et tout. Ah non, cette maison, je l'adore. J'ai 88, bientôt 89. Je me suis arrêté de travailler à 82 ans. La marine m'a dit oh, maintenant, il faudrait peut-être un peu arrêter. Hein. Ben, je voulais continuer, puisque comment peut-on vous arrêter quand vous faites un boulot aussi. aussi merveilleux, quoi. Hein.
La pêche, c'est quand même un métier difficile.
Oui, oui, mais c'est, ben oui, mais je partais le matin à 2h, 2h30, mais je partais en chantant. J'étais heureux d'y aller. J'étais heureux de me lever. Des fois, je regardais le réveil, je dis, mais il avance pas, ce réveil.
Je dis, au milieu de la nuit.
Oh, ouais, au milieu de la nuit, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il avance pas. J'avais tellement envie d'y aller. Et c'est vrai que ça a été un véritable spectacle, parce que j'ai des photos de poissons, il y a des chapons comme ça, il y a des dorades. C'était tout du poisson noble que j'ai pêché. Des rougets, j'avais le matin, le premier travail à faire, c'était de poser le filet à rouget. Et les rougets, quand vous en prenez 7, 8, 10 kilos, c'est beau à voir hein, quand même, c'est un beau panier. Hein.
C'est vos parents qui sont arrivés sur l'île ?
Alors, c'est ma mère et sa sœur qui sont venus travailler à l'hostellerie provençale. Et puis mon père qui naviguait et qui faisait l'Amérique du Sud a pris des vacances et est venu à Porco, a connu ma mère à ce moment-là. Et après, il n'est plus jamais reparti.
C'est-à-dire qu'il a démissionné de sa carrière de marin ?
Oui, 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 bien sûr. Et puis tout de suite, il a pas beaucoup attendu, je crois que c'est un an ou deux, même pas. Et puis il s'est mis à la pêche. C'était facile à l'époque. Hein. Il suffisait d'acheter un pointu et puis vous décidiez de le faire maintenant. Je connais un petit jeune là qui veut faire la pêche. C'est devenu très compliqué. Hein.
Vous disiez qu'il fallait acheter un pointu. Un pointu, c'est un petit bateau, en fait.
Oui, et à ce moment-là, on tirait tout le filet à bras. Alors, il y en avait un qui ramait pour que le bateau reste dans la bonne direction et un qui tirait les filets. C'était une épopée, hein, mais c'est quand même, c'était agréable. Et puis, je ne peux pas dire qu'il y avait plus de poissons, j'en sais rien, mais c'était tellement moins pêché et on mettait tellement moins de filets à la mer que finalement, c'était un peu la Polynésie, quand même.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Je me rappelle de bouillabaisse, de repas avec mes parents, mais c'était fantastique, quoi. C'était royal. Hein.
C'était avec votre papa que vous avez appris la pêche?
Oui, oui. Mon père était un fin pêcheur. Et pourtant, il pêchait à la canne des rochers. Il appâtait avec du pain et des crevettes. Il jetait ça, il tirait les poissons les uns derrière les autres. Ah, il fallait voir les pêches qu'il faisait. Hein.
Et je me suis laissé dire que c'était aussi un bon chanteur.
Ben, c'est-à-dire qu'à l'époque, tout était comme... C'était le début de tout, quoi, finalement. Et il se réunissait, il chantait, il dansait avec le phonographe. Rendez compte un peu si... Ils étaient tellement encore près de la vérité, de ce qui était naturel, quoi. Hein. C'était beau. Ils ont eu, eux aussi, une vie extraordinaire.
Près de la grève, souvenez-vous des voix de rêve, chantez pour nous. Minute brève du cher passé, pas encore effacé. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras.
Ça, c'est un pistachier lentiste. Ça, c'est du genévrier. Là, regardez ça. Si vous frottez vos mains dessus, sans abîmer la plante. Hein. Mais si vous frottez vos mains,
ça sent bon.
Vous sentez ?
Oh, c'est le jeu.
C'est le myrte.
Ah, ben, je sens d'ici.
Ça sent très, très bon.
C'est ça que c'est la plante. Non, mais...
Ben, là, on est dans le maquis.
Oh, ça sent trop bien.
C'est ça, l'enfance que j'ai eue, moi. C'était des émotions à tous les coins de rue, à tous les coins de bois.
Pierre Buffet, 93 ans, figure de Porco.
Ici, on était tellement libre que quand on allait à terre, à l'époque, ce qu'on appelle à terre, c'était...
Sur le continent, en fait. Et oui, on est à terre.
On allait sur le continent, mais pour nous, les enfants, c'était les gens du continent qui étaient des gens à part. Bien entendu, il n'y avait qu'une réalité. C'était les quatre petits merdeux qui habitaient à Porcro. C'est eux qui détenaient la vérité. Mais c'est formidable, parce que ça vous donne un sentiment d'être propriétaire d'un tas de choses que les autres n'ont pas. Je ne parle pas propriétaire de droit, je parle propriétaire de l'image et du sentiment.
C'était quelque chose d'extraordinaire que de grandir ici.
Ben oui, puisque je ne suis pas allé à l'école jusqu'à 13 ans. On a été chassés de Porcro lorsque les Allemands nous en ont chassés en octobre-novembre 1943. Mais moi, jusque-là, je n'avais jamais mis les pieds à l'école et on habitait Porcro à l'année. Mais nous suivions des cours par correspondance qui étaient assez sévères, très surveillés par ma mère. On avait l'essentiel. Quand on nous emmenait deux fois par an ou trois fois par an pour acheter un pantalon chez Sigrand, par exemple, à Toulon, les pauvres gens qui nous servaient, on se rendait compte qu'ils n'avaient absolument aucune idée de ce que c'était la pêche, de ce que c'était manger un oursin, de ce que c'était passer la nuit à la Belle Étoile sur le belvédère de la Vigie. C'était nous, les privilégiés. Et ce sentiment de privilège n'était pas un privilège social, c'était un privilège d'émotion. Et donc, c'était les autres qui n'étaient pas normaux.
Si on lui avait dit, enfant, qu'il allait finalement déménager sur le continent, Pierre Buffet n'y aurait certainement pas cru. Et pourtant, après avoir grandi à Porcro avec ses parents qui travaillaient dans l'auberge des Henri, l'hostellerie provençale, Pierre Buffet va quitter Lille pour ses études supérieures et son service militaire et rejoindre ensuite Paris dans des bureaux bien loin de ses vagabondages insulaires et de ses nuits à la Belle Étoile. Jusqu'à ce que Marceline Henri, la dame patronesse de Lille, ne décède en 1966 sans enfant. Et à sa grande surprise, Pierre Buffet va apprendre qu'elle en a fait son héritier, lui léguant alors son hôtel, le manoir, mais aussi des dettes et un procès sans fin avec Madame Desmarais sur la propriété d'une partie de l'île. Alors, Pierre Buffet va rentrer à Porcro, démêler ses affaires et ne plus jamais quitter son île, une île dont il aime à dire qu'elle a un supplément d'âme.
Avec ses mille rivages, avec ses mille sillages, la mer murmure au bateau le mystère de ses eaux. De vague en vague déchirante, dans les eaux douces étincelantes, se mêlent la colère et le calme entre le vent et les algues. Les flots d'or et d'azur nous bercent l'âme comme un doux amour et dépose sur le sable l'écume de nos jours. Avec ses mille voyages, avec ses mille orages, la vie est comme une barque dans une mer sans rame. Au loin le large bleu dessine une ligne, une fin, des adieux. Où voguent tous les navires vers l'écume de tes yeux.
Vous écoutez Si loin, si proche.
Je vais bien, Nicolas. Et toi ?
Bah écoute, oui, ça a été. Moi, je suis sorti en mer cette nuit pour au cas où, parce que il faut être présent et du coup, voilà. Donc nuit un peu agitée, mais ça va. En tout cas, il n'y avait pas de braconnage, donc ça va.
Alors, on est le matin. Là, il fait beau. On a de la chance. Le port est encore tout calme.
Ouais.
Ça veut dire que la journée n'est pas encore complètement commencée parce qu'elle commence avec l'arrivée du bateau pour vous.
C'est ça. Là, dans 10 minutes, il y a le premier bateau qui va arriver. Puis après, il va se succéder pas mal d'arrivées du Lavandou et de hier. Donc on ne sait pas du tout là pour l'instant comment va être la journée. En fait, tout va dépendre du nombre de personnes qui sont à bord. Et voilà. Donc effectivement, la journée n'est pas commencée. Hein, puisque dès l'arrivée du bateau, Porcro se transforme en fait.
À si loin, si proche, on est toujours au cœur du parc national de Porcro, un parc qui en 2023 fête ses 60 ans et dont l'idée a germé ici, sur l'île qui porte le même nom. Sur ce petit caillou couvert de forêts, de maquis et hérissé de forts, les agents du parc, comme Nicolas qu'on vient d'entendre, veillent. Avec pour crainte numéro un, les feux de forêt. Ce qui fait que partout, aujourd'hui, sauf au village, il est interdit de fumer. Et la crainte augmente quand l'été arrive, bien sûr, et que les visiteurs, 2500 par jour en saison haute, débarquent du bateau. Tiens, en parlant du bateau, le voilà qui arrive.
Ça va bien? Ouais. Ça va ou quoi?
Ça va.
Impec.
Ce premier bateau qui arrive aux alentours de 9h ici à Port-Cros, c'est celui qui amène toutes les marchandises, tous les matériaux, tout ce dont l'île a besoin en fait.
Tout à fait. Celui-là, c'est le fret. En général, il amène les gens qui y travaillent, donc les ouvriers ou les agents, et le fret. Donc tous les commerces attendent ce bateau-là avec impatience. C'est lui qui assure la poste. Et donc on a justement ce petit défilé de véhicules qui viennent sur le quai parce que c'est finalement le plus important pour les habitants parce que c'est celui-là qui nous ravitaille et qui amène aussi les gens qui y travaillent.
Donc les véhicules, hein, c'est des petits quads avec des petites remorques pour venir justement chercher les marchandises pour les restaurateurs ou les commerçants qui sont ici, quoi.
C'est ça. En fait, il y a eu 3 autorisations parce que Port-Cros est une île où la circulation est interdite, que ce soit par rapport aux véhicules à moteur ou vélo même. Du coup, il n'y a que 3 autorisations qui ont été données pour des quads, pour des commerçants, et qui ne circulent que dans le village et à certaines heures de la journée, à savoir quand il y a les arrivées ou les départs de bateaux.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que c'est les chariots de la poste?
C'est ça, c'est la poste. C'est pas la poste.
Donc la poste vient jusqu'ici à Port-Cros?
C'est ça, la maison elle est là, la poste est là. Mais moi je fais juste j'amène juste les colis.
D'accord.
Après il y a une postière qui vient un peu plus tard.
D'accord. Et c'est tous les jours?
Pendant la saison, oui. C'est tous les jours. Et l'hiver, c'est 3 fois par semaine.
Et parce qu'en fait les gens qui habitent ici dépendent de ça.
Ouais. De la poste d'ailleurs, c'est ça.
Ok, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée.
Merci vous de même.
Quand on prend l'été, bon là, ça y est, on arrive dans les beaux jours. Tout le monde a envie de venir voir. Pourquoi ? Après, quand arrive l'hiver, qu'il y a des tempêtes, que le bateau ne vient pas, etc. Nous, on s'en fiche, on est dans notre cocon, on est dans notre bulle. Et là aussi, on apprécie vachement que, justement, personne ne peut venir. Et ça, c'est très agréable. Quand on fait des balades avec des Mistral à force 11, qu'il y a un orage, ça me fait plaisir. Quand il pleut, c'est beau. Quand il fait un coup de vent, quelquefois on monte au fort là-haut voir la tempête d'en haut. C'est tout le temps un spectacle. Il est tellement différent que c'est difficile de trier dans une qualité de vie pareille. Voilà.
Et vous, c'est ici que vous avez rencontré Jeanne, votre épouse?
Oui. Mais Jeanne, elle est pratiquement aussi insulaire que moi. Si, peut-être des fois je lui dis: mais t'es encore plus insulaire que moi, c'est pas possible.
Ça veut dire quoi?
Ah mon Dieu, quel bonheur! Mais c'est vrai, c'est un bonheur. Elle va chercher sa salade sauvage dans certains endroits. Elle en laisse pour plus tard. Oh là là, mais c'est incroyable parce qu'elle est porcrosienne, quoi. C'est beau, c'est très beau.
Ça veut dire quoi? Elle est encore plus insulaire que vous? Qu'est-ce que vous voulez
mais
dire?
C'est-à-dire. Autant mon insularité, je peux en parler à travers quoi? À travers la mer. Eh bien, elle, c'est presque la terre, elle. Alors du coup, on se complète vachement bien. C'est pour ça qu'elle fait des choses que, auxquelles je n'ai pas pensé, moi. Mais elle, ben, ça m'émeut, moi. Ça m'émeut, parce que je me dis, tiens, ça, c'est vrai. L'île est tellement en moi que j'ai l'impression que c'est un tout, quoi. Je ne conçois pas vivre ailleurs que pour Crau. Maintenant, je ne pourrais absolument pas... J'arrive même plus à partir une journée. Je ne souffre pas de pas être sur la côte, hein, pas du tout. Mais il n'empêche qu'il y a un pêcheur au Levant, là-bas, avec sa femme, et qui ont très bien compris mon envie d'avoir du poisson qui vienne de mon île aussi. Hein. Alors je les appelle et ils m'envoient exactement les poissons dont j'ai envie. Et alors donc, on ne manque pas de poissons. Et c'est extraordinaire. Oui, parce qu'il n'aurait pas fallu que je sois retraité et que manger des steaks hachés, ça aurait été dommage. Hein. Non, non.
On s'est arrêté là sur le port, devant un ponton auquel sont amarrés les bateaux légers. Pourquoi on s'est arrêté là ?
On s'est arrêté là parce qu'en fait, ce ponton-là, on l'a toujours appelé le ponton des pêcheurs. En réalité, il n'y avait qu'un seul pêcheur, en tout cas à l'époque où moi j'étais petit. Et donc du coup, ce ponton-là, c'est beaucoup de souvenirs pour moi parce que j'attendais avec impatience le retour du champion. C'est-à-dire le champion, c'est le nom du bateau, du coup. Parce que, ben, en fait, tout ce qui pêchait et qui restait encore vivant, eh bien, du coup, il savait que je l'attendais avec un petit seau. Et du coup, eh bien, il me donnait les poissons vivants qu'ils ne pouvaient pas vendre de toute façon. Et dès que mon seau était plein, et ben, du coup, je montais vite au fort de l'Estissac et je mettais dans les aquariums, parce qu'il y avait des aquariums à l'Estissac. Et ça, ça c'était mon quotidien. C'est, en tout cas, c'est ma belle époque à Porco, une partie.
Et donc, c'est là où tu as vécu avec ton père, ta mère.
C'est ça. Alors, ma mère était plutôt sur Porquerolles, voire sur le continent. Et mon père, il venait passer toutes les saisons d'été ici, parce que c'est lui qui devait gérer les objecteurs de conscience, qui préparait le sentier sous-marin, etc. Et du coup, ben, moi, tout l'été, je le passais là. Tu vois, il y a deux villas. Donc, la première villa, c'est celle que j'occupe, moi, et où habitait mon père. Alors ça me fait bizarre maintenant d'y habiter en tant que chef de secteur parce que c'est la maison des chefs de secteur. Et puis la maison qu'il a, c'est la maison de Mamadoc, du médecin. C'est la mairie qui lui a octroyé cette maison parce que c'était important qu'elle soit bien, que ce soit agréable pour elle d'être logée là. Pour l'inciter évidemment à rester, elle reçoit sa famille, il y a son mari qui travaille avec nous. Là, je vais te montrer.
Elle n'est pas là tout le temps, la médecin.
La médecin, elle est là le mercredi et le week-end. Et après, l'été, en général, elle est là quasiment tout le temps.
Ah, c'est dans le dos de la chapelle.
Voilà, ouais, ouais. Et du coup, ça a gardé. Alors là, l'école est toujours là, elle s'en ira jamais. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est des enfants. Des enfants à Porco.
Et pour qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait une école.
Des
enseignants.
Et c'est ça le problème. Donc c'est compliqué. Et honnêtement, l'école de Porco, même s'il n'y avait pas eu d'école, Porco est une école à elle toute seule. Parce qu'on était livrés à nous-mêmes, donc forcément. Voilà. Mais à l'école, on pouvait arriver pieds nus, ça posait de problèmes à personne. Je veux dire, c'était pas la bohème, mais c'est quand même. C'était pas strict. C'était même pas une école de village où c'est une classe unique. Là, c'est vraiment une école d'Ilien. Voilà, c'est particulier, quand même. C'est vraiment particulier.
Bonjour. Vous cherchez du réseau, vous cherchez votre chemin ?
Non, une personne a oublié son téléphone, alors je veux savoir comment lui rendre, mais il y a un code.
Évidemment. Eh, pas facile.
Bah, à part le ramener au bateau, moi je travaille sur les bateaux, mais c'est pas sûr que ce soit le bon bateau non plus.
Je vous ai vu d'ailleurs ce matin arriver avec le bateau.
Oui.
Et vous en avez profité pour faire un petit peu de randonnée ?
Ah bah, hors saison, enfin du moins avant que la saison commence, on a des horaires qui nous laissent une pause assez intéressante. Donc on a une coupure qui est un peu longue. Oui, voilà. J'allais le ramener à la capitainerie.
Je vous remercie, c'est super gentil.
Il se demandait justement à qui il allait le remettre.
Il y a un code, alors je ne pourrais rien faire, j'allais le ramener.
Non, mais je remets un croix.
Ah ouais, vous disiez que vous aviez des pauses assez longues.
Oui, voilà. Alors, comme quand j'aime la nature, j'aime, on a besoin. Donc avec des collègues, on est parti, on a fait pratiquement un grand tour. Pas le tour de l'île, mais presque. Et là, je me suis baigné à la plage du Sud. Il y a très peu de monde. Voilà. Moi, j'aime bien le passé. Il y a des vestiges de tous les côtés, il y a des traces du passé de tous les côtés. Il y a la nature, les oiseaux.
Les traces du passé, c'est-à-dire?
Ben, vous n'avez pas fait attention, il y a énormément de murs en pierre sèche. Et on ne va pas le mettre à l'honneur du parc national, désolé. Hein, c'est là depuis des siècles avant eux. Hein. Donc voilà, vous avez des maisons, des puits partout. En fait, il y avait une vie, il y a des rivières qui coulaient il y a quelque temps partout. Hein. Donc voilà.
Et oui, donc, et vous,
je suis un peu rêveur, donc j'imagine, voilà, comme j'aime naviguer, mais pas sur les bateaux en fer, sur les voiliers. Et je pense qu'il y a toujours eu une présence humaine très importante dans les îles. Et donc ça me plaît d'être... Mon moderne, c'est en connexion avec ça, mais bon... C'est intérieur. Hein. Normalement, je parle à personne. Hein.
Mais ceci dit, vous parliez de la mer. Il y a toujours un espace de rêverie et de liberté sur l'eau. On le retrouve aussi quand on est comme ça, dans un espace de forêt, de maquis, très calme.
Oui, oui, pleinement. Moi, je retrouve partout. En plus, on a des chemins qui nous amènent sur des promontoires avec des vues magnifiques. Donc, du coup, on se perd à tout moment, ou sur l'horizon, ou alors avec la présence des oiseaux, après il y a les cigales, enfin, c'est une immersion totale. Ça fait du bien avant de retrouver les milliers de chevaux mécaniques là, qui font du bruit, qui nous ramènent à la réalité avec des fois des centaines de personnes sur le continent. Quoi. Mais bon, ce qui me fait plaisir, c'est de voir toutes ces familles qui marchent ici. Ce qu'on retrouve de moins en moins en fait, ailleurs. Si un enfant, vous le mettez ici, il s'en rappelle toute sa vie.
Dans le petit cimetière qui d'ailleurs donne vue sur la mer. Tout petit cimetière, il y a quelques tombes seulement.
31. C'est très émouvant, hein, bien entendu, parce que j'y retrouve une grande partie de mes amis, et notamment mes partenaires de la pétanque. Et puis toute cette histoire qui nous a habité, et moi je suis qu'un petit élément de cette histoire-là. Donc c'est très émouvant. D'abord, c'est un cimetière marin. Pourquoi ? Parce qu'on voit la mer, donc c'est la définition du cimetière marin. Marceline est là, à côté de son mari, Marcel Henry, et M. Baline. Et vous retrouvez les trois protagonistes essentiels de cette île qui sont réunis dans ce petit cimetière. Au fond, on a ces familles qui sont arrivées d'Italie et dont les parents se sont installés à Port-Cros. Soit ils arrivaient dans la grande migration italienne pour trouver des emplois à l'hôtellerie provençale, soit pour travailler dans les forêts ou comme pêcheurs. On a tous des personnages assez hauts en couleur. Et puis sur cette petite tombe-là, c'est la famille Touze, dont on dit que la mère d'Alfred et de Barbe Noire...
Barbe Noire.
Barbe Noire, oui. Et Alfred, en fait, c'était Tarzan pour nous. Leur mère vivait au Levant et traversait le dimanche à la nage la passe, 1200 mètres, pour venir à la messe. On imagine cette femme à 8h du matin traversant pour être à 10h à la messe, écouter la messe et repartant dans l'autre sens, retraversant pour aller vivre au Levant. Elle a eu trois enfants, dont deux ont vécu à Port-Cros et qui tenaient ce qu'on appelle la trinquette aujourd'hui, qui s'appelait l'Oustalet.
Pour la plupart, William, ce sont des tombes assez simples finalement, mais c'est assez joli parce que comme elles sont au milieu de la forêt et qu'elles sont elles-mêmes couvertes de plantes, on a vraiment l'impression que le cimetière fusionne avec la nature.
C'est tout à fait, vous avez tout à fait raison. On est saisi par le fait qu'on est dans un parc national, enfin dans une forêt naturelle, et que la forêt aussi veut prendre sa part dans cet espace clos qui, lui, ne bougera plus. Et en fait, la forêt est en train de reprendre son espace. Et donc, moi, je viens ici, effectivement, m'asseoir de temps en temps, en fermant les yeux et puis en voyant apparaître tous ces personnages. Et puis, je continue à dialoguer avec eux. Alors, mon grand regret, bien sûr, c'est que je ne peux pas jouer à la pétanque avec eux.
Allez savoir.
On verra bien.
Mais en tout cas, ça veut dire... pardon, William, mais c'est que vous, le jour venu, vous vous verriez bien ici aussi.
Bien sûr. D'abord, je me vois nulle part ailleurs. Et mes amis sont là, quoi. Moi, j'ai pas envie de... Pour l'éternité entière, d'être sans mes amis, vous comprenez? Donc, non, j'ai envie d'être là. Et puis, on va rigoler encore un petit peu.
va surveiller la Gabinière. C'est un site de plongée donc en réserve intégrale. Donc les plongeurs ont une dérogation pour pouvoir plonger.
Et la Gabinière, c'est devenu un spot très 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 connu justement pour plonger.
Ah oui, c'est un spot de réputation mondiale, la Gabinière.
Pourquoi ?
Parce que ça fait depuis 60 ans que le parc national existe, que du coup les populations de mérous se sont bien reconstituées, donc on a de très très beaux mérous à la Gabinière. Les gens viennent pour les mérous en fait, essentiellement, alors qu'il y a plein d'autres choses à voir un peu partout, mais le plongeur étant ce qu'il est, c'est un peu comme les cocheurs, ce qu'on appelle les cocheurs au niveau ornitho, il faut avoir vu un certain nombre d'espèces d'une certaine taille. Et je pense que pour beaucoup de plongeurs, il faut avoir fait la Gabinière. Donc évidemment, sur un site de plongée, on avance à vitesse très 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 réduite pour la sécurité. On ne sait pas, il peut y avoir quelqu'un qui fait une remontée brutale parce que...
Là on voit des bulles effectivement.
Parce qu'il a un souci, donc bon, là on voit ils sont loin, hein, mais quand on approche un site de plongée, il faut réduire la vitesse. Très 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 important. Là tu vois, il y a les bulles là.
C'est le club des frères Angers.
Voilà, c'est le club des frères Angers. Donc voilà Patrick qui surveille la plongée.
Salut Patrick. Combien de plongeurs aujourd'hui? 5. Ok, merci. On te dérange pas plus longtemps. Ciao.
Que ce soit en mer ou sur terre, on l'a bien compris, le parc et ses agents surveillent et veillent sur le trésor de Porquerolles. Certaines dérogations de cueillette ou de pêche de loisirs sont accordées pour les habitants, mais la réglementation de ce cœur de parc demeure très stricte. Ce qui déplaît évidemment à certains. Et Vladimir a pu s'en rendre compte quand il a rencontré deux figures de l'île qui, à l'occasion des 60 ans du parc, ont décidé de le faire savoir.
Stéphane Angers, porcrozien.
Philippe Angers, porcrozien.
C'est simple et c'est clair. Et on peut dire, Stéphane et Philippe Angers, que vous êtes un peu les deux irréductibles de Porquerolles.
Moi, je pense que le terme est un petit peu fort, disons que nous sommes les racines de l'île, parce que notre mère est née ici, et Stéphane et moi, nous sommes les deux derniers à être nés sous Porquerolles. Donc, je pense que c'est plutôt les racines de l'île plutôt que des irréductibles.
Notez que l'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, c'est vrai qu'ici, dans le parc national, il y a des statuts un peu différents, parce que Porquerolles a des zones habitées qui ne font pas partie du parc national, qui sont dites des zones périphériques. Et vous, ici, à Porquerolles, où il y a le port, les habitations, elles font partie du parc national. Et visiblement, c'est quelque chose qui change complètement la donne et qui vous pose un certain nombre de problèmes.
On ne peut pas mener une vie normale sans se poser en permanence la question, est-ce que c'est autorisé, pas autorisé? C'est vraiment très contraignant. On est dans une dualité où il y a un problème de paysage qui est magnifique et où on est sous une chape d'administration et de contraintes auxquelles les habitants n'étaient pas habitués, puisqu'en fait, le fait de vivre sur une île, c'est une notion de liberté, une notion de système D. Et ça ne va pas avec le côté administratif. Rien n'est fait pour que nous puissions avoir des surfaces de stockage. Et sur le plan social, c'est encore pire, parce qu'il n'y a rien qui a été prévu pour la démographie. Nos propres enfants ont du mal à se loger. Et il n'y a rien pour les saisonniers. Donc nous, on ne veut pas développer plus, mais on ne veut pas moins. On veut vivre, simplement.
Mais on est bien d'accord en même temps que ce qui fait la renommée de l'île, ce qui fait que les gens viennent la visiter, et vous êtes les premiers concernés puisque vous avez tous les deux des restaurants, donc qui dépendent aussi de cette fréquentation-là, c'est aussi le parc national et le fait que cette nature-là soit toujours aussi belle.
On est tout à fait pour le parc, sur le fond, mais la forme est catastrophique. Il faut adapter des façons de vivre sur les îles en général, sur Porquerolles en particulier, comme l'ont fait les anciens. Les anciens vivaient en autarcie complète, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de la pêche, que ce soit au niveau des poubelles. Et à l'heure actuelle, c'est quand même malheureux de constater que les poubelles de Porquerolles repartent sur le continent avec un bilan carbone qui est quand même catastrophique. On amène de l'eau par bateau qui est un bilan carbone catastrophique. On va à l'encontre de ce que l'on veut faire.
En fait, votre problème majeur, c'est le manque de dialogue et de concertation.
Quand on voit que la nouvelle loi de 2006 sur les parcs nationaux amène justement à la place de l'homme dans les milieux naturels protégés, je pense que ce serait très très bien d'en arriver justement à faire une symbiose des problèmes du parc et des problèmes insulaires pour qu'on arrive à montrer au monde entier qu'on peut coexister. C'est une question humaine. Et on a la chance d'avoir une nouvelle équipe. Et là, on est très 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 positif à ce niveau-là. Et je pense qu'on va arriver, et je le souhaite de tout cœur, à ce qu'il y ait une vie harmonieuse dans un parc où les gens peuvent, sans être dans un milieu policier, à pouvoir apprécier la beauté de l'île en toute quiétude. Parce que c'était le souhait de Madame Henry, qui est fondatrice du parc national.
Je me suis inscrit dans les pas de gens qui avaient un rêve beaucoup plus fort que le mien. Je l'ai fait par sentimentalité, je l'ai maintenu par paresse, mais je m'aperçois que leur objectif était plus fort que je ne le pensais, mais qu'aujourd'hui, il ne peut plus être défendu individuellement comme ils l'ont fait. Il ne peut être le défendu, et ce n'est pas exactement le même, que par le maintien de la loi. Or, quand la loi vient, elle assure le maintien social, mais elle enlève le rêve. Donc ça a été les racines du rêve, mais l'arbre qui s'est développé a fait des feuilles juridiques.
Peut-être aussi grâce un peu au parc, on a gardé une île tellement vraie. Alors bien sûr, il y a des contraintes, alors il y en a qui rouspètent en disant « Ouais, le parc veut pas ci, il veut pas ça ». Oui, mais ils ne se rendent pas compte qu'on est en train de protéger leur point de bonheur total. Quoi, hein. Parce que l'île, c'est pas parce que ça va se moderniser que ça sera mieux, hein. Ça ne sûrement, sûrement pas. Non, là, il faut que ça reste comme ça. Le parc y veille, eh bien, tant mieux.
Pour finir, Pierre Buffet, qu'est-ce que vous lui souhaitez à cette île ?
Oh ben, je lui souhaite surtout, un, de ne pas brûler, deux, d'avoir des gens qui peuvent y vivre et s'y entendre, et trois, de rester assez sauvage pour que les gens se sentent différents. Car bien entendu, nous avons la prétention d'être différents, des majuscules.
Porcro, l'île au trésor, c'était un reportage de Vladimir Cagnolari. Merci, avec un grand M, aux habitants de Porcro, au parc national et à ses agents, à Vartourisme, à la compagnie TLV qui nous a transportés sur l'île, et merci enfin à Anne-Laure Buffet. Céline de Velay-Mazurel, Laura Larry, Vladimir Cagnolari, on vous salue, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour d'autres voyages sonores.